Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonjour. Je suis Léa Chaumoncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de la fracture numérique en France. La fracture numérique, également appelée l'électronisme, touche, selon une récente étude de l'INSEE, 17% de la population française. Cela signifie qu'un Français sur 6 est exclu ou en difficulté avec les usages du numérique. Alors que la dématérialisation est promue à tous les niveaux et dans tous les secteurs, notamment dans le secteur public, l'électronisme apparaît de plus en plus comme un facteur d'exclusion. En effet, la e-exclusion semble renforcer tout type d'inégalité, qu'elle soit économique, culturelle ou encore sociale. Il apparaît notamment, selon un rapport du Défenseur des droits publié en janvier 2019, que la dématérialisation de l'administration accroît le risque de non-recours aux droits et d'exclusion pour les personnes concernées. Par ailleurs, les conséquences de l'électronisme peuvent être sérieuses, parfois dramatiques, et causer une perte d'autonomie, un isolement ou exposer les personnes à des risques en termes de cybersécurité. Pourtant, les nouvelles technologies prennent davantage de place dans le quotidien et le gouvernement actuel a pour ambition de dématérialiser 100% des services publics d'ici à 2022. Dans un pays où plus de 500 000 personnes sont situées dans des zones blanches, soit des zones dépourvues de toute connexion Internet et mobile, cette ambition apparaît peu réalisable. Conscient de ces difficultés, ainsi que des difficultés liées aux usages de l'outil numérique, le président de la République a annoncé en septembre 2017 qu'il fallait réduire les fractures numériques en Europe. Dans cette perspective, le gouvernement a lancé en mars 2019 un plan visant à démocratiser l'accès au haut débit et à mieux former les Français aux usages du numérique par le moyen du pass numérique. En tout, 110 millions d'euros seront déboursés pour lutter contre cette fracture. Quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce plan ? Les efforts mis en place seront-ils suffisants ? Permettront-ils, en 2 ans, de réduire la fracture numérique en France et de préparer tous les administrés à la dématérialisation intégrale des services publics prévus en 2022. C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Sébastien Garneau, fondateur de la Cyber Task Force et de la Paris Cyber Week. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler de la fracture numérique ?
Bien sûr, j'en ai entendu parler, parce que je suis député en zone rurale.
Oui, qui n'en a pas entendu parler ?
Oui, ben, la fracture numérique impacte l'ensemble de nos territoires, et certains plus que d'autres.
Oui, ben là, ça fait depuis des décennies, des nombreuses années qu'on est en pleine fracture.
La fracture numérique, oui. Non seulement j'en ai entendu parler, mais je la subis.
Oui, bien sûr, c'est un sujet dont on ne peut pas ne pas ignorer les enjeux, oui.
Oui, bien sûr.
Exactement, vous savez, je suis un élu rural, je suis donc confronté au quotidien quant à l'accès à nos citoyens, que ce soit à la 4G ou à Internet, principalement via la fibre.
Oui, très bien, puisque j'ai été l'auteur avec Jean-Paul Dufresne d'un rapport sur l'accessibilité des services publics en milieu rural.
Oui, bien sûr.
Il semble donc que nos députés ont déjà entendu parler de la fracture numérique, mais sont-ils capables de la définir précisément ?
C'est surtout une inégalité d'accès, d'abord par rapport aux zones de couverture. Donc déjà, les outils ne sont pas accessibles à tout le monde sur le territoire, y compris nos dom-toms, il ne faut jamais les oublier. Mais c'est surtout l'incapacité fonctionnelle ou de compréhension sur l'outil numérique en tant que tel.
C'est la capacité à accéder ou non
À Internet, l'accès est physique, c'est-à-dire est-ce qu'on a une connexion, mais l'accès est surtout social, est-ce qu'on sait manipuler ou pas les offres qui sont sur Internet. Voilà, la fracture numérique n'est pas qu'une accessibilité technique, c'est aussi une capacité, je dirais, est-ce qu'on maîtrise la langue numérique ou pas. Et c'est là qu'on se découvre ce qu'est la fracture numérique.
Bah, j'entends par fracture numérique, effectivement, sur l'ensemble du territoire national, des territoires en zone blanche, dit-on, sans accès au numérique, ou des gens qui, même s'ils ne sont pas en zone blanche, n'y ont pas accès, ou en tout cas maîtrisent mal le numérique. Bon, voilà. Je dirais même que ça me concerne moi, parfois. Enfin, je veux dire, avec tous les codes, les machins, les bidules, etc. On n'y comprend rien, enfin, voilà.
La meilleure définition nous a été donnée par le député La République En Marche des Côtes d'Armor, Éric Bozorel, qui remporte ainsi le quiz.
Alors, il y a plusieurs aspects à la fracture numérique. Il y a celles et ceux qui n'ont pas accès aux services du numérique parce qu'ils ne sont pas couverts par les réseaux. Et puis, il y a un autre type de fracture numérique. C'est ceux qui ne sont pas rompus aux usages, aux capacités de pouvoir utiliser un terminal, un PC, un smartphone, etc. Donc vous avez plusieurs natures de fracture du numérique.
Nous comprenons donc que nos députés savent, à peu près, ce qu'englobe la fracture numérique. Mais savent-ils combien de personnes sont concernées par cette fracture en France ?
Je suis très mauvais en statistiques et je mémorise aucun chiffre, voilà.
Non, je ne sais pas. Non.
Petite idée ?
Non, je peux pas dire, non, je n'aurais pas trop d'idées. Après, bon, les gens de plus de 90 ans, c'est sûr qu'ils ont un petit peu plus de problèmes que les autres, on va dire. 17%, voilà. Donc j'aurais dit un chiffre plus élevé que ça, ce qui est déjà pas mal. Hein.
Je ne sais pas combien ça représente, le nombre de personnes.
13 millions,
voilà. 13 millions quand même. Hein. Bon. Ça veut dire, voilà, c'est ça. Voilà, quasiment 20%, j'allais dire.
Et c'est encore Éric Bozorel qui a gagné. Bravo.
On l'estime aux alentours de 16 millions, je crois. Des chiffres qui circulent sur l'inclusion, hein, notamment. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont tenus éloignés des services numériques pour les raisons soit d'accès à la couverture, soit plus sûrement encore de difficultés à pouvoir manipuler un smartphone ou voilà, parce qu'on recouvre là l'électronisme, c'est autour de 13 à 16 millions de personnes, donc c'est pas négligeable.
Nous leur avons aussi demandé si, d'après eux, l'objectif fixé par le gouvernement de dématérialiser l'intégralité des services publics d'ici à 2022 était un objectif tenable. Pour le député La République En Marche du Lot-et-Garonne, Olivier Damézin, il semble que cela ne fait aucun doute.
Oui, c'est tenable. Hein. Oui, c'est tenable.
Pour la députée La République En Marche de Loire-Atlantique, Sophie Errante, cet objectif n'est pas forcément tenable, mais il semble souhaitable, à condition que des mesures d'accompagnement soient bien mises en place pour les personnes qui ne sont pas encore autonomes dans l'usage des outils numériques.
Souhaitable, tenable, alors ça, j'aurais du mal à m'y engager comme ça aujourd'hui parce que je pense que le champ de tous les métiers et les compétences, on n'a pas forcément encore toute la mesure. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans ce sens-là. Je pense que c'est souhaitable si et seulement si on laisse l'accompagnement à l'utilisation de l'outil numérique. Bien évidemment qu'il est souhaitable, mais il ne peut pas être qu'une solution pour les autonomes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont autonomes et il y a ceux qui ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les aide. Si on numérise tous les services publics, moi j'aimerais qu'il y ait justement une application messervicespublics.fr ou en tout cas une application messervicespublics, mais que ces services-là puissent être humanisés dans les territoires au plus près. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec France Service, où il puisse y avoir des lieux d'échange sur ces services publics numérisés.
Le député La République En Marche des Côtes d'Armor, Yannick Kerlegot, semble également partager cette opinion et insiste sur la nécessité de mettre les bons outils en place pour atteindre cet objectif, notamment en termes d'accompagnement humain.
C'est un objectif. Maintenant, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Après, je pense à des services comme le chèque numérique, un dispositif qui a été mis à l'attention des personnes pour entrer en formation. Je pense aux Maisons France Service. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit du territoire où l'on habite, on puisse avoir à moins de 20 km de chez soi un lieu où on puisse nous accompagner dans toutes ces démarches numériques dématérialisées. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution, notamment pour des gens qui n'ont pas l'outil numérique à la maison, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas cette pratique-là. Donc l'accompagnement humain est indispensable. Et avant d'atteindre l'objectif que vous citiez, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de démontrer qu'on se donne les moyens d'accompagner les personnes. Et là-dessus, il y a encore une marge de progrès, c'est indéniable.
D'autres semblent avoir un véritable doute. C'est notamment le cas du député Les Républicains du Loiret, Claude Deganet, pour qui certaines personnes ne sont vraisemblablement pas encore prêtes.
À l'échelle de mon territoire notamment, Il y a encore beaucoup de foyers qui auront du mal à se connecter, non seulement au point de vue technicité, mais également capacité à le faire. Il y a une personne, beaucoup de gens vieillissants, des gens de personnes assez âgées, qui ne maîtrisent pas encore tous les outils informatiques et qui auront du mal à se connecter. On le voit bien pour des documents très simples, comme la carte grise, comme la fiche d'état civil ou autre, qui est demandée d'une façon dématérialisée, et où les personnes âgées nous sollicitent, même nous, députés, pour qu'on les aide ou qu'on leur apporte un soutien.
Ce constat est également partagé par le député MoDem des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei, qui insiste aussi sur un autre point important, la confidentialité des données des personnes accompagnées dans l'apprentissage des outils numériques.
Ça me semble un peu rapide, mais je crois qu'on y va petit à petit. Mais il faudra qu'on accompagne cette évolution par des personnes physiques qui vont accompagner justement les personnes pour accéder à ces nouveaux outils, avec un vrai souci de confidentialité, de mémorisation de tous les comptes, quand vous ouvrez un compte et autres, là aussi. Et donc c'est une réflexion qu'on a eue, notamment avec les maisons France Service, qui nécessiterait d'avoir des personnes de confiance qui seront un peu les tiers de confiance pour justement gérer ces codes et ces accès.
D'autres considèrent qu'il est nécessaire d'accompagner les personnes en difficulté afin d'éviter l'exclusion, notamment dans les territoires ruraux. C'est ce qu'affirme le député socialiste de la Haute-Garonne, Joël Aviragnet. Écoutons-le.
Alors, s'il le veut, il risque de le faire. Mais enfin, si on veut continuer à piller le monde rural, allons-y, continuons. Et puis, on favorisera le vote des extrêmes. Les gens se sentent complètement abandonnés. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc, on a besoin d'humains. Voilà.
Enfin, pour le député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, cette dématérialisation ne doit pas être intégrale.
Il faut offrir cette dématérialisation, mais en même temps, et c'est ce qui manque beaucoup dans ce gouvernement, continuer à donner le lien humain, continuer à donner la possibilité de ne pas se retrouver avec comme seule alternative de passer par le numérique pour traiter quelques sujets administratifs que ce soit. Donc oui à la dématérialisation, pour tous ceux qui le maîtrisent, eh bien ça leur permettra de faire leur démarche le week-end, le soir ou en vacances où ils sont, mais que pour tous les autres et un quart de la population, il y a un espace et un lieu de continuité. Et je dirais même, ça doit être la première des priorités avant même la dématérialisation.
Nous allons désormais échanger avec Sébastien Garneau. Sébastien, vous êtes le fondateur de la Cyber Task Force et de la Paris Cyber Week. Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour et merci Léa de l'opportunité que vous m'offrez. Bonjour à tous. Oui, la Cyber Task Force en fait est un groupe de décideurs de très haut niveau, à la fois public et privé. Quand je dis public, il y a des parlementaires, il y a des représentants de l'État, il y a des représentants des PME. Et on se rassemble régulièrement à haut niveau pour faire converger en fait le temps politique et le temps de l'innovation. L'une des difficultés qu'a la puissance publique face à l'innovation, c'est qu'elle a toujours ce fameux temps de retard. Et ce temps de retard, il est souvent lié simplement à un manque de contact direct. Nous sommes une cellule de contact opérationnelle, immédiate et concrète, qui émerge sur un rendez-vous annuel européen, parce qu'il faudra, et on en parlera tout à l'heure, bien comprendre que l'échelle pertinente sur tous ces sujets, c'est l'Europe. Et donc, ça, c'est la Paris Cyber Week.
Est-ce que, selon vous, le plan mis en place par l'État pour lutter contre la fracture numérique va dans le bon sens ?
Oui, la réponse est oui, il va dans le bon sens parce que aujourd'hui, il est impossible de ne pas soutenir une démarche qui viserait à faire rentrer la démocratie et les citoyens dans le 21e siècle. Toutefois, mon point de vue, et là je m'exprime à titre tout à fait personnel, c'est que l'ambition est très forte, très haute, mais que lorsque l'on a un cap, il faut aussi s'intéresser à la navigation et donc à la feuille de route. Je pense que 2 ans, 3, c'est particulièrement ambitieux. Il ne faut pas oublier que le démarrage de la transformation numérique de l'État, c'est 2010. Donc ça fait 9 ans, et donc ça en fera 12 en 2022, que nous sommes en train de faire cette transition numérique de l'État. Alors oui, je la soutiens, oui, on l'encourage, et oui, on apporte ce que l'on peut. Toutefois, je crains que, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, nous ne soyons pas tout à fait au point fixé. Toutefois, c'est parce qu'on a une ambition haute qu'on sera le plus haut possible. Et dans ce cadre-là, c'est assez encourageant.
Quelles sont les mesures qui sont concrètement mises en œuvre pour lutter contre cette fracture ?
Alors, sur cette question, peut-être que je distinguerai au moins deux grandes catégories et peut-être une troisième, nous le verrons. La transformation numérique, c'est à la fois l'État et les citoyens. Et donc, le lien entre l'État et les citoyens, ce sont les services publics. La transformation numérique interne de l'État, comme toute organisation, est en cours, elle avance bien. Bien sûr, il y a la question de la dématérialisation, mais il faut toujours imaginer que tout cela est une question culturelle et que c'est finalement une dynamique de changement qu'il a fallu insuffler dans des ministères qui avaient une culture quasiment séculaire, du papier notamment. Et donc, faire adhérer la fonction publique aux nouvelles méthodes de travail n'est pas quelque chose de très simple. Et on pourra parler plus particulièrement du ministère de l'Éducation nationale qui est à la fois la clé et l'enjeu. Et puis, il y a le deuxième volet, que sont les citoyens. Et donc là, il faut rentrer dans le maillage territorial. Quels sont les outils ? Le plan très haut débit, la fibre pour tous. Comme ça avait été annoncé, moi j'ai la chance de vivre dans une région particulièrement dynamique d'un point de vue numérique, qui est la région Bretagne. Et dans cette région, on a déjà du retard. On a toujours du retard, c'est bien normal, puisqu'on est en train de créer une infrastructure physique. Lorsqu'on pense numérique, on ne pense jamais aux câbles. Mais il faut bien se rappeler que tout ça n'est possible que grâce à des câbles ou des satellites. Donc il y a un moment ou un autre, il faut produire l'infrastructure. Et on parlait d'inclusion, ou de fracture, ou d'exclusion. Mais celui qui n'a pas accès à l'infrastructure, déjà, est exclu par définition. Donc là, on a un gap qu'il faut combler, et clairement, l'État agit. De la même manière, je pense que ce sera un peu le fil rouge de notre entretien, Léa, il y a la question des compétences. Une fois que j'ai accès à l'infrastructure, est-ce que je sais me servir de l'outil ? Je crois que nous avons les outils et qu'il faut les utiliser. L'Union européenne a lancé un programme qui s'appelle Digital Skills, donc c'est les compétences numériques. Elle y a affecté des budgets et propose aux États membres de se saisir de ces budgets pour mettre en place des actions très très concrètes sur le terrain. En France, on a fait émerger tout récemment France Compétences, qui finalement rappelle bien l'anglicisme Digital Skills, et dedans on a listé un certain nombre de compétences stratégiques, dont le numérique. Comment faire ? Il faut le mettre dans les programmes scolaires. Le numérique, et le numérique, quelle est la définition du numérique ? Partons de là. La mienne, c'est la suivante. Le numérique, c'est le croisement de l'informatique et des usages. Donc, de l'infrastructure et de l'utilisation de cette infrastructure. Si on apprend aux nouvelles générations quels sont les avantages et les inconvénients de cet nouvel espace, qui n'est pas si nouveau, finalement, et qui n'est pas si inconnu, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'en saisir et quelque part, on les rend plus libres parce qu'ils auront un usage éclairé de ce qu'ils font et ils ne seront pas passifs, ils ne le subiront pas. Aujourd'hui, on subit l'innovation. Qui sait ce que fait Facebook de nos données ? Qui sait ce que fait Google de nos données ? Et la crainte qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est si l'État se numérise, que fera-t-il de nos données ? Dans un contexte français post-20e siècle, ça pose des questions qui nous rappellent les pires souvenirs. On a une actualité aujourd'hui qui montre aussi que le numérique peut être un outil de déstabilisation. Et finalement, à la fin de tout ça, on a la question des fake news, la désinformation. Et comment on vérifie une information ? Par l'éducation, savoir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, savoir détecter une fausse source et ensuite se faire son avis. C'est ça la démocratie. Je voudrais insister sur la question des femmes. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la tech, c'est un milieu de mecs. Globalement, et c'est vu comme tel. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes de grands talents qui ont cette modestie, peut-être, de ne pas le faire savoir ou de se mettre en avant. Mais c'est excessivement important qu'on ait 100% des compétences, qu'elles soient masculines ou féminines, à la fois sur le volet de l'éducation dont je parlais, mais aussi dans les entreprises, dans les associations, parce que c'est bien cette collaboration de compétences, hein, j'entends, et bien sûr finalement de genre, qui va faire en sorte de rapprocher les divergences et donc de réduire les fractures. Cette fracture-là est, à mon sens, l'une des plus graves parce qu'elle nous sépare, nous, entre nous, êtres humains, et cette fois tant sur la question du genre que sur celle de la diversité. Et le monde numérique, c'est comme le monde physique, et cette fameuse vision française, c'est que l'humain est humain, il a des droits, ceux de l'homme, et que finalement, peu importe son sexe, son genre, ses convictions politiques, etc., on a tous un rôle à jouer dans la construction de notre avenir commun.
Avons-nous aujourd'hui suffisamment de recul pour pouvoir apprécier les résultats des mesures mises en œuvre afin de réduire cette fracture ?
Oui, il y a les indicateurs de l'INSEE. Je dois reconnaître que je n'avais pas révisé les indicateurs de l'INSEE, donc je ne prendrai pas le risque de vous les donner, mais je peux vous donner les tendances. À partir de quoi sont fixés ces indicateurs ? C'est ma première question. Est-ce qu'ils sont ceux du XXe siècle ou ceux du XXIe siècle ? Parce que c'est toujours la même question. On ne peut pas juger le monde qui arrive avec les outils du monde qui disparaît. Donc je crains que ces indicateurs, de toute façon, ne nous donnent pas une vision fine. Le Conseil national du numérique aussi essaie d'évaluer l'impact citoyen des mesures. Je vous renvoie à leurs productions qui sont de grande qualité et qui sont toujours du côté du citoyen, même s'il y a quand même un aspect un peu militant dans la défense du consommateur, mais qui pourrait ne pas être d'accord avec ça. Non, concrètement, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est qu'on progresse parce que je m'en rends compte. Je voyage un peu partout en France. Je vais à la fois dans des écoles, mais aussi au contact du monde social et économique. On parlait de Google tout à l'heure. Je travaille avec Google parfois parce que de toute façon, ils sont là et on a besoin d'eux. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Google ? On a fait un tour de France où Google a montré comment sécuriser le compte Google. Alors oui, ça met Google en avant, c'est pas faux. Mais tout le monde a un compte Google. Moi j'ai un Gmail, vous avez un Gmail Léa ?
Bien sûr.
Vous avez un Gmail, bien sûr. Donc ça nous intéresse, vous et moi, de savoir comment on le sécurise de l'extérieur. Et donc on s'aperçoit que Google a bien intégré la vision européenne de la donnée personnelle et du numérique, et donc essaie d'apporter une réponse qui soit le compromis entre sa vision, parce que Google a une vision du monde, et celle de ses utilisateurs, parce que Google est toujours là au service de ses utilisateurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont les premiers. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Non, parce que vous souhaitiez les chiffres, mais concrètement, on progresse, et les élus locaux ont un grand rôle à jouer.
Merci beaucoup Sébastien pour cet échange. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.